Ça, c'est une autre affaire.
Une affaire de famille.
Je crois que on m'avait dit qu'elle avait fait aussi une remarque du style que si elle classait cette affaire, elle pourrait être accusée de collusion sexiste, non ? Comme quoi, le fait de poursuivre des femmes jusqu'au bout, ce n'est pas sexiste, mais le fait de les protéger, c'est sexiste.
Oui, à part ça, le sexisme à l'envers, il n'a jamais fait peur à personne au niveau de la justice. Mais quand c'est le sexisme, soi-disant un sexisme pour soutenir les femmes, alors là, évidemment, tout le monde crie au secours, au secours.
Ça, c'était une des actions du comité contre le viol, c'était donc de soutenir ces femmes quand elles ont été emmerdées après une campagne de graffiti qui dénonçait les violeurs. Est-ce que vous avez d'autres histoires à raconter sur ce que vous avez fait pendant cette année ou cette demi-année ? Je crois que vous avez fait toute une campagne publique avec des conférences de presse, avec des textes. Vous avez aussi participé à une émission de télévision sur le viol, qui était, je me souviens plus, mais je crois que vous pourrez en parler, de celui qui l'a réalisé. Est-ce que vous pourrez parler un petit peu de cette émission qui, à mon avis, bon, je l'ai regardé cette émission, et les témoignages des femmes violées m'ont beaucoup touchée. J'ai réagi, et sur le moment, je la trouvais bien. Et puis, en y réfléchissant, je la trouvais affreuse, cette émission. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, ayant participé au débat de cette émission. Donc, cette émission présentait des femmes violées, et le commentateur, la personne qui posait les questions, voulait toujours ramener la question au niveau psychologique, au niveau psychanalytique presque, du papa, de la maman, de l'Oedipe ou de pas Oedipe, des effets, etc. Les violeurs, ils étaient présentés comme des malades, et bon, à mon avis, c'est pas du tout le cas. Les violeurs, c'est vraiment monsieur tout le monde, et les violées, c'est madame tout le monde, malheureusement. Alors, je ne sais pas, vous avez participé au débat, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, moi, j'ai, de toute façon, j'avais une position donc très réticente par rapport à cette émission, mais sur l'émission en soi, pas simplement à partir du film ou comment elle était... C'était plus sur la manière dont elle était faite. Bon, premièrement, je crois qu'il faut signaler un truc, c'est que le comité contre le viol a été présent dans cette émission presque par force. C'est-à-dire qu'au départ, le comité contre le viol n'était pas du tout compris dans les participants. Et bon, on a eu beaucoup de discussions dans le cadre du comité là-dessus, sur la nécessité ou non d'aller d'y participer. Et c'est évidemment très difficile parce qu'en fait, bon, les masses médias ont des limites très grandes et certaines. Et qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'une émission comme ça ?
Sauf de Radio Zone. Hein.
Oui, mais on retrouve un peu ce problème, c'est-à-dire pourquoi il y a des radios libres. Et puis bon, on espère qu'un jour il y aura des TV libres. Mais bon, donc le comité avait donc décidé d'y participer. À ce moment-là, on a voulu en fait essayer d'imposer à ce que le comité participe d'une manière représentative, c'est-à-dire à plusieurs personnes. Et là-dessus, c'est clair qu'ils n'ont jamais accepté. Ils n'avaient aucun problème à ce que l'appareil judiciaire ou policier soit représenté à 5 ou 6. Par contre, le comité contre le viol, une personne et c'est tout. Et ce qui était en fait, bon, moi j'étais dedans, alors j'ai peut-être aussi une autre vue, je sais pas. Ce qui était difficile en fait, c'est que bon, c'est des temps de parole qui sont super minutés, c'est-à-dire que nous, ce qu'on a voulu absolument faire passer là-dedans, c'est l'existence du comité. Alors on s'était accroché à ça en disant il faut citer la case postale, il faut citer les réunions, il faut citer des trucs pratiques, c'est-à-dire signaler qu'il y a un comité comme ça qui existe, dire en gros ce qu'on fait, ce qui fait que les femmes puissent s'adresser à ce comité. Mais c'est vrai que sur le débat, c'est bon un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était un débat où, tout à fait plat, tout le monde s'accorde pour dire le viol c'est terrifiant, c'est horrible, c'est catastrophique, et puis... Bon, tout le monde est d'accord, tout le monde se trouve d'accord, alors on ne comprend pas pourquoi dans la pratique, en fait, c'est si difficile que ça de faire reconnaître qu'on a été violé et de faire reconnaître que c'est une situation possible. Alors bon, c'est ça la limite la plus grande que moi, personnellement, je vois à cette émission. Bon, pour le reste, oui, moi j'ai des critiques en tout cas à faire au réalisateur du film, enfin à sa personne lui-même, à sa conception en fait, qui effectivement je trouve qu'il bon, il voit les choses très psychanalytiquement, comme tu dis, très, très au premier degré, et en fait il pose jamais le problème fondamental, mais... Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change ? C'est bon, on nous dit toujours c'est à nous les femmes de proposer autre chose. C'est certainement vrai, je crois.
Vous avez aussi organisé un meeting justement dans le cadre, dans l'idée de que les femmes prennent en charge ce problème, que ce soit plus justement la justice, la police ou toujours des autres qui prennent en charge ce problème, et bien les femmes. Vous avez organisé un meeting. Vous voulez peut-être parler de comment s'est déroulé ce meeting et de quelles propositions sont sorties du débat ?
Ouais, moi, je pense qu'au sujet de cette émission, c'est typiquement l'attitude alibi de la TV et des mass médias en général. On donne l'occasion aux femmes de parler du viol. Et en fait, cette émission, c'était... Elles en parlaient... En somme, en vase clos. Enfin, aucune issue n'était donnée. Elles donnaient leur témoignage... Et puis c'est tout, et je crois que c'est vraiment pas du tout ce qu'on fait quand on fait un meeting là-dessus, où on essaie de faire une réflexion sur, d'une part, la voie juridique, d'autre part, les autres possibilités, et puis aussi, quelle réaction chaque femme a, parce que nous, même dans le comité, où on est pourtant que 20 femmes, on voit bien qu'on a des réactions très différentes, ou qui s'expriment très différemment par rapport au viol. Et bon, au moment de cette émission, en fait, on a eu des discussions qui auraient pu être interminables parce qu'en fait, chacune réagissait très différemment. Rejeter complètement l'aspect malade, psychanalytique des violeurs. Bon, de toute façon, je pense qu'il n'a pas pu le faire passer dans cette émission complètement pour le deuxième violeur. C'était évident que c'était beaucoup plus idéologique que maladif. Mais on ne peut pas non plus éloigner complètement ce truc-là. Et puis je pense qu'on n'est pas toutes, d'accord sur l'analyse de qui sont les violeurs. Alors dans une émission comme ça, on peut que constater le fait, oui, ce qu'elle disait tout à l'heure, tout le monde soi-disant est prêt à dénoncer le viol, à faire parler les femmes, comme il disait à la conclusion, il faut que les femmes parlent. Et puis quand elles parlent, eh ben, elles en prennent plein la gueule. Enfin, c'est ça qui s'est passé chaque fois que nous. On a été accompagnatrice de femmes qui voulaient parler. Alors, c'est vrai que les juges, les avocats, les flics, il n'y avait pas de flics, je crois, mais qui étaient présents dans l'émission, ils auraient pu être accusés de malhonnêteté vraiment à chaque mot qu'ils disaient, quoi. Alors, je pense que quand on fait un meeting, nous, on se retrouve peut-être avec un public plus restreint. C'est vrai qu'il y a moins... Il y a moins de personnes qui s'y déplacent que de téléspectateurs ou téléspectatrices. Mais bon, c'est une réflexion aussi plus en profondeur. Et puis, je crois qu'on a parlé d'une année d'existence du comité. C'est pas une année. Et puis, on part... c'est vraiment difficile comme réflexion aussi liée à l'action. C'est vraiment pas simple. Ouais.
Alors toujours au sujet de l'émission là, de Carlin, moi il y a deux choses qui m'ont frappée. La première, c'est déjà le choix des violeurs. En fait, c'était chaque fois des violeurs absolument anonymes. Or, je pense que souvent, dans la plupart des cas, les femmes sont aussi violées par des gens qu'elles connaissent. C'est-à-dire le petit copain qu'on invite un soir et qui viole à un moment donné. Donc ça, je pense que c'était un choix qui n'était pas gratuit, de prendre des gens parfaitement anonymes. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que la manière dont il interrogeait les femmes, je trouve qu'il avait besoin chaque fois de se rassurer énormément. En fait, il avait peur de perdre les femmes. C'est-à-dire que je pense que dans le viol, il y a une rupture de confiance énorme qui s'établit avec tous les hommes. Une femme violée, elle aura une perte de confiance ensuite assez totale, ou disons elle peut s'en remettre, mais je pense que ça doit être très profond. Et ça, à chaque fois, il essayait de se rassurer en disant à la femme, mais alors vous maintenant, qu'est-ce que vous avez comme rapport avec les hommes ? Est-ce que vous pouvez encore avoir des rapports avec les hommes ?
D'ailleurs, en parlant justement de viols qui ne sont pas de violeurs pas anonymes, il faut signaler que en Suisse, on peut violer impunément dans le cadre du mariage. Donc, un mari peut violer sa femme sans qu'elle puisse porter plainte, et que quand on parlera de la justice. Alors, quand on lit le procès-verbal pendant les procès, il parle du viol toujours en disant acte sexuel commis hors mariage. Et c'est assez significatif. Acte sexuel non consenti hors mariage. Et ici, c'est toujours hors mariage. Donc, dans le mariage, l'homme peut faire ce qu'il veut. On ne viole pas. C'est le devoir conjugal. Bon, on va mettre un peu de musique pour s'aérer un peu l'esprit.
L'être un rêveur qui s'ignore, qui jongle avec les foudres et acar, retourne coucher dans son décor. Quand le réel reprend ses droits, vendez-moi. Une île déserte, vendez-moi. Une île déserte. Il pensait tout haut dans sa tête que la petite avait de quoi, qu'il pourrait profiter peut-être de la fille qui vient d'en bas. Avec ses yeux de vieux cochon, ceux qui se rongent de phallocrates, qui voient en chaque femme le ballon. Encore moins d'elle qui, de surcroît, en vertu d'une morale précaire, leur laisse volontiers tous les droits. jongle avec les foudrelles des yakas. Retour couché dans son décor. Quand le réel reprend ses rats.
C'était Lucide Bossonge qui chantait « Vendez-moi une île déserte ». On espère que c'est pas ça qu'on n'arrivera pas à cette solution. Vous voulez peut-être encore parler un peu du meeting que vous avez organisé et de, des actions qui, sont, qui ont été décidées pendant ce meeting.
Oui, justement, par rapport, entre autres, la différence entre l'impact et puis l'utilité d'une émission de télé et puis un meeting où l'impact est moins grand, c'est vrai. On le dit toujours, il faut utiliser les mass-médias, mais bon, nous, on n'en reçoit pas beaucoup en retour. En fait, de cette émission de télévision, par exemple, on n'a pas eu beaucoup d'écho, si ce n'est par les copines, les copains, tout ça. Mais autrement, largement, on n'a pas eu beaucoup d'écho. Par contre, dans ce meeting, je crois que c'est quand même important de le signaler. Donc, ce meeting avait été organisé à la fois pour le 8 mars et puis à la fois aussi pour faire une certaine pub au comité. Enfin, bon, c'était les deux choses jointes. On avait donc des vidéos, on avait fait une exposition aussi qu'on avait repris à partir de l'exposition de Solidarité Femmes en Détresse et qu'on avait complétée par rapport à la question du viol et tout ça. Et bon, il n'y a pas eu énormément de monde, mais il n'en reste pas moins que c'est de ce meeting qu'en fait il est parti l'idée et puis la concrétisation ensuite d'écrire une lettre au sujet de ces graffitis et de commencer à faire une réaction beaucoup plus... Bon, publique, elle était déjà faite puisqu'on avait déjà fait une conférence de presse, mais plus élargie, c'est-à-dire que d'autres personnes, d'autres femmes, mais également d'autres groupes, d'autres gens se sentent concernés par cette histoire sur les graffitis et nous soutiennent dans l'action qu'on avait entreprise et participent très concrètement à la résolution qu'on a eue. Je crois qu'il faut quand même dire que sur cette histoire des graffitis, le comité contre le viol a eu une victoire importante. Et importante pas seulement au niveau des femmes et pas seulement pour le comité contre le viol, mais importante d'une manière générale pour tous ceux qui luttent et qui sont amenés à utiliser des moyens comme ça. Alors c'est vrai que bon, maintenant il y a ce code pénal qui est entré en vigueur, ce sera certainement toujours plus difficile d'utiliser ce type de moyens, mais il n'en reste pas moins que avoir obligé la juge Barbet en fait, d'arrêter son action judiciaire contre les deux femmes de Prenaville, c'est une victoire importante pour tous les mouvements genevois en tout cas, et je pense alentour aussi.
Bien, alors maintenant concrètement, j'espère que on va donner quelques conseils pratiques qui malheureusement doivent être utilisés, malheureusement parce qu'on ne souhaite à personne de se faire violer. Et donc, que faire en cas de viol? Vous avez, je crois, vous préconisez une série de mesures à prendre immédiatement en cas de viol pour réagir. Donc, il faut en tout cas réagir. Je crois que c'est un des conseils qu'on peut donner. Il ne faut absolument pas rester seul. Il ne faut pas le prendre sur soi. Le viol, ce n'est vraiment pas une histoire personnelle ni individuelle. C'est vraiment une histoire que beaucoup de femmes vivent. Et c'est une violence faite à toutes les femmes. Et donc, je crois que le premier conseil, c'est de ne pas rester seul. Mais vous avez toute une série d'autres conseils pratiques. Que sont-ils?
Bon, la chose la plus importante, c'est d'avoir un constat. Parce que s'il n'y a pas de constat écrit par un médecin, le dépôt de plainte n'est pas possible. Donc, ce qu'il faut, c'est, comme l'a dit Viviane, c'est pas rester seul, déjà. Et ensuite, bon, ce qu'il faut, c'est appeler le médecin de garde, qui est obligé de se déplacer, ou consulter un médecin dans les 24 heures, et faire un constat. Alors, pour ça, il faut... Bon, pas se laver, ce qui serait un réflexe premier que tout le monde comprendrait, mais effectivement, il ne faut pas le faire, parce qu'il faut qu'il y ait un prélèvement de spermatozoïdes qui soit, qui soit noté dans le constat. Donc ça, c'est très important. Si possible, il ne faut pas changer de vêtements non plus, parce que si les vêtements sont déchirés, il faut pouvoir que ce soit mis ça sur le procès-verbal. Et ensuite, il faut faire un dépôt de plainte. Enfin, il faut, disons, si la femme veut le faire, déposer plainte. Alors là, il y a un conseil qu'on donne aux femmes, c'est surtout ne pas aller seule déposer plainte. Parce que c'est très dur de déposer plainte, c'est pas évident. Il y a tous les sarcasmes de la police qui sont là, et vraiment, c'est pas facile. Alors là, il y a eu des expériences de copines qui ont accompagné des femmes pour déposer plainte. Je sais pas si peut-être vous voulez en parler maintenant, un peu dire comment ça se passe.
Bon, ah, il y a aussi, bien sûr, je pense, puisque le comité contre le viol est ici, et une des choses à faire, ce serait de vous contacter, puisque vous avez déjà accompagné des femmes, vous avez déjà réfléchi à des modes d'action sur comment réagir en cas de viol. Donc, je rappelle la permanence, qui est donc tous les jeudis soirs à 21h au Centre Femmes, 5 boulevard Saint-Georges à Genève. Et vous pouvez aussi écrire au comité contre le viol, case postale 187, 1224 Genève 1. Vous pouvez aussi téléphoner le jeudi soir au 29 22 98, donc pour avoir des conseils du comité contre le viol, mais ou pour contacter le comité contre le viol. Mais à part ça, donc, le conseil qu'on peut donner, c'est effectivement de ne pas aller seul. Ce n'est pas nécessairement accompagné par le comité contre le viol. Ça peut être aussi des copines, des personnes que vous aimez bien, avec qui vous pouvez aller à la police si vous décidez de porter plainte, ou en tout cas de discuter avec des gens qui vous sont proches, qui peuvent vous comprendre de ce problème du viol, pour trouver ensemble une manière de réagir. Car je crois que c'est très très important qu'il faut réagir. On ne doit pas se taire sur ces histoires de viol, parce que c'est encore se mettre encore plus en situation de victime, c'est encore prendre sur nous cette violence et se faire encore plus de mal. Et je crois qu'une des choses qu'il faut faire, c'est en tout cas réagir d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, ne rien faire du tout, ça ne peut que, à mon avis, empirer cet état de victime, de se sentir coupable, parce qu'on aurait peut-être, qui sait, incité à la violence. D'ailleurs, peut-être qu'avec le nouveau code pénal, on sera pénalisé si on porte une mini-jupe ou un pantalon collant pour incitation à la violence, qui sait. Mais en tout cas, il faut réagir. Alors, on peut aussi peut-être parler de quelques moyens que des femmes ont mis sur pied pour justement réagir plus collectivement, pour apprendre à se défendre, à apprendre à ne pas être toujours victime. Et c'est des moyens préventifs, en quelque sorte, pour le viol.
Non, mais avant, moi, je trouve qu'il faut préciser un peu sur les histoires de dépôt de plainte. Hein. Bon, c'est vrai que pour l'instant, le comité contre le viol, n'a pas beaucoup d'autres solutions alternatives au dépôt de plainte. En fait, la manière de rendre publique une histoire comme ça, c'est vrai, c'est premièrement de déposer plainte. Alors, il faut savoir, bon, très pratiquement, il faut déjà savoir qu'on a 3 mois pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de courir chez les flics dans les heures qui suivent. Hein. C'est beaucoup plus important d'avoir un constat médical et de réfléchir en fait à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il faut savoir que déposer plainte, ça implique une instruction, ça implique un procès, c'est lourd. Et puis, très souvent, dans la plupart des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, insatisfaisant, parce que ça veut dire... Enfin bon, on est très, c'est vrai, très éclaté sur la résolution proposée par la justice, c'est-à-dire des mois ou des années de prison ou des amendes. Enfin bon, qu'est-ce que ça nous sert? Mais je pense le constat médical, donc ça, il faut le faire vraiment tout de suite. Et je crois qu'il faut pas attendre 24 heures, parce que personne ne restera 24 heures dans l'état où elle se trouve après une agression. Mais je trouve qu'il faut dire 2 mots sur ce que ça implique de déposer plainte très concrètement. C'est-à-dire, bon, ce que disait tout à l'heure Geneviève sur le truc des témoignages. Quand on dit qu'il ne faut pas aller seul déposer plainte, c'est vraiment à partir de ce qu'on a vu nous. C'est vrai que quand on arrive là-bas, quand on arrive à... Bon, on peut aller dans n'importe quel poste de police, mais ce n'est pas très différent. quand on arrive à Karl Vogt, suivant à quelle heure on y arrive, on nous dit qu'il n'y a personne pour taper à la machine, il faut revenir le lendemain. Et ensuite, il faut savoir qu'on va y passer un minimum de 2 heures. De 2 heures pénibles, dans le sens où, en fait, l'inspecteur est... Bon, depuis, nous, en tout cas, l'expérience qu'on a, c'est qu'on tombe toujours sur le même inspecteur. Il nous tient la jambe pendant 2 heures en faisant ses commentaires. Mais, brigade des mœurs, bien sûr. Ah, ça aussi, quand vous arrivez là-bas, alors il faut tout de suite dire que vous avez été violé, même si c'était qu'une tentative de viol. Il faut dire que vous avez été violé, sans ça, on vous aiguille sur les sacs à main volés. Alors, c'est pas drôle. Et puis, en fait, bon, cet inspecteur, mais je pense que ça ne va pas être très différent que ce soit un autre. Bon, d'une part, ne nous dit même pas, ne nous signale même pas que s'il n'existe pas d'inspectrice aux mœurs, par contre, on peut quand même demander à être entendu par une femme parce qu'ils ont formé des collaboratrices, comme ils disent. Et bon, c'est à vérifier, mais je pense quand même que ça doit être plus facile de parler devant une femme. Je pense que c'est à vérifier, hein, parce que sur les femmes juges, on commence à les chanter aussi. Mais ça, il ne nous le signale pas, bien sûr. Et ensuite, justement, et il faut l'exiger. Oui, alors ça, il faut absolument l'exiger. Et ensuite, en fait, il se permet toute une série de remarques qui sont absolument invraisemblables. On ne peut pas dire qu'il est franchement machiste et puis franchement anti-femme. De toute façon, il est anti-tout, hein. En tout cas, tout ce qui est jeune et tout, et tout ce qu'on veut. Mais il a des insinuations qui sont graves. Par exemple, dans le dernier cas, la femme avait été agressée par une personne, par un type d'une cinquantaine d'années. Au moment où elle dit ça, il lui répond « C'est impossible, à 50 ans, on ne viole plus, on séduit. » Et on a droit à tout son commentaire sur pourquoi les hommes à 50 ans, ils ne violent... Oui, il a cet âge-là, lui. Pourquoi à 50 ans, les hommes ne violent plus, mais ils séduisent, parce qu'ils ont la... Enfin bon, toute sa tisane. Et c'est tout du long comme ça. Et en fait, pour l'instant, ça, c'est, je pense, une de nos faiblesses, c'est qu'on n'arrive pas, en fait, à résister très fortement et à lui dire « Écoutez, monsieur, on n'est pas là pour écouter vos discours, on est là pour déposer plainte sur quelque chose de grave. » Pour l'instant, c'est vrai qu'on se sent, une fois de plus, trop dépendante du bon vouloir de ces gens. Parce que c'est vrai que, par ailleurs, il nous a signalé, quand la femme disait « Non, je ne me suis pas tellement défendue, je ne me souviens pas en tout cas de m'être défendue », puis qu'elle avait ses habits déchirés, il lui a dit « Mais écoutez, il faut le noter, ça veut dire que vous êtes défendue. Si vos habits sont déchirés, c'est que vous êtes défendue. Et il faut le noter. » Alors, d'un côté, il nous donne des renseignements utiles, puis d'un autre côté, on doit subir son truc, ses fantasmes, son discours et tout ça. Alors, c'est vrai qu'une femme choquée par l'agression qu'elle vient subir, elle ne supportera jamais un truc comme ça. Et là, par exemple, c'était typique, on était deux à accompagner la femme agressée. Et en fait, elle nous disait après, moi, j'aurais jamais pu lui répondre. Et en fait, c'était les deux autres femmes qui devaient systématiquement répondre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et puis bon, nous, le comité, il faut qu'on essaye de réfléchir, de voir comment on peut faciliter ces démarches. Par exemple, est-ce qu'on peut écrire une déposition à l'avance et la porter à Karl Vogt en disant, voilà, j'ai cette déposition à transmettre à la brigade des mœurs. Et puis, parce que le viol est poursuivi d'office. Hein. Donc, il n'y a pas besoin qu'on soit entendu.
En fait. À la limite, on n'a même pas besoin de déposer plainte. Mais bon. Non, je veux dire, le viol théoriquement est un crime, comme un assassinat, donc ce n'est pas poursuivi sur plainte, il est poursuivi d'office. Mais justement, comme ce que prétendent les flics, ce que prétend la justice, c'est que s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de viol. Bon, on en reviendra peut-être quand on va reparler plus en détail de justement du dépôt de plainte et des conséquences, c'est-à-dire de l'instruction et du procès. On va passer un petit peu de musique.
Rivière, mal en promenée, porte mon gruyère et mon pain complet. Je me serais bien couché dans l'herbe, mais j'ai pas osé. D'ailleurs, j'entends quelqu'un s'approcher. Un drôle de mammifère.
Alors, dans le cas où on décide de porter plainte, donc, c'est-à-dire de faire un procès, donc justement les conséquences de la plainte, c'est qu'il va y avoir une instruction, c'est qu'il va y avoir un procès. Donc, ce choix, car c'est un choix, on décide de porter plainte, quelles sont les conséquences de ce choix, comment ça va se passer ? Donc, au moment où on a déposé plainte, on vient d'entendre avant que c'est déjà difficile de porter plainte, c'est déjà difficile d'aller chez les flics, d'être reçu par ces gens que par ailleurs on déteste et de leur raconter nos histoires. Et puis on sait très bien qui ils sont et puis que, bon, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils vont violer. On ne sait effectivement pas quels sont leurs fantasmes et qu'est-ce qu'ils font pendant leurs heures de congé. Donc c'est à ces gens-là qu'on va déposer plainte, on va raconter nos histoires. On a souvent entendu des témoignages où les femmes ont été très très mal reçues. Bon, maintenant, avec déjà l'existence du comité contre le viol, le fait que ce comité exerce quand même une pression au niveau public, parce qu'il a fait des conférences de presse, parce qu'il il met en évidence justement tous les actes contre les femmes qui se produisent, donc au niveau de la justice en tout cas. Mais bon, quand on a fait cette démarche, après, on est entendu par un juge d'instruction. Il y a une instruction qui va être faite et qui va aboutir à un procès. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette instruction et sur ce procès ?
Bon, moi, je pense qu'il y a deux aspects dans le dépôt de plainte. Bon, avec toutes les critiques qu'on peut faire au dépôt de plainte. Le premier aspect, c'est de porter le débat à un niveau public. Et ça, je pense que c'est un moyen... c'est un moyen de le faire, parce que autour d'un procès, on peut faire toute une campagne, on peut faire des meetings, on peut faire des conférences de presse. Donc c'est un moyen de parler, du viol. Le deuxième aspect, je pense aussi important au niveau de la femme qui a subi toutes ces procédures qui sont très très dures, c'est la reconnaissance de la culpabilité à un moment donné. C'est-à-dire parce que tout le procès va tourner autour du fait est-ce qu'elle était consentante ou non consentante. Hein. Et à la fin, si ça se solde par une culpabilité, effectivement, la femme pourra se dire, eh bien, c'est vrai, ça a été reconnu publiquement comme étant un acte criminel. Et ça, je pense que c'est quand même très important pour la femme. Je pense que ça doit être quelque part libérateur. Mais bon, je sais pas.
Mais par rapport à ce qu'on a pu suivre sur l'instruction de Prenaville, voilà, d'abord une première chose, qu'il faut que les femmes sachent, c'est que ça va leur coûter cher. En fait, on l'a vu aussi avec les copines de Prenaville, c'est des factures qui sont assez énormes. Financièrement, oui, ça va leur coûter cher financièrement. Et puis, l'autre chose, bon, c'est la première expérience, et puis elle est quand même de taille, c'est qu'en tout cas, elles ont subi un nombre de confrontations, je crois que c'est vraiment c'est une dizaine, avec les violeurs et les avocats, et dans des conditions vraiment assez très pénibles, c'est-à-dire le mépris, des réactions de racisme. Bon, notamment un certain avocat. Mais même, non, mais il faudrait impliquer le juge aussi, le juge d'instruction qui était ignoble aussi, qu'en tout cas se trouvait toujours du côté du côté des violeurs. Et ça a été quelque chose de pénible qu'elles ont subi. Et puis, c'est pas terminé. Ça fait, je pense, maintenant 8 mois que ce viol a eu lieu. Et l'instruction est en principe terminée, mais peut être... réouverte selon les recours que les violeurs feraient. Alors c'est vrai que c'est un aspect, il faut, nous en tout cas, on a l'intention de dire aux femmes qui déposent plainte, de les avertir, de les renseigner sur ce qu'elles auront à assumer. Bon, l'avantage c'est qu'elles ne l'assumeront pas elles seules, mais collectivement. Et puis bon, il faut trouver une avocate, etc. C'est vraiment pas simple, quoi.
Je crois que la difficulté, en fait, première dans les procès, c'est qu'en fait, la femme doit toujours prouver qu'elle a été victime d'un viol. C'est le seul, enfin bon, ça se dit sur tous les tons, ça se dit même par les gens bien intentionnés qui se retrouvaient au débat de la télévision, que c'est le seul crime où, en fait, la victime doit prouver qu'elle est victime. c'est un seul endroit. Si on se fait, on se fait voler, si on se fait cambrioler, si on se fait hold-upper, si on se fait tirer dessus, on ne doit jamais prouver qu'on a été victime de quelque chose. Tandis que là, elle doit toujours faire la preuve qu'elle a été victime. Et c'est vrai que les violeurs nient toujours. Ils nient toujours leurs actes. Alors ça, je crois que c'est quelque chose de taille, parce qu'en fait, ça exige de la femme qu'elle puisse parler de l'histoire presque en dépassionnant. Alors bon, c'est quelque chose de très très fort, de très, vraiment très difficile. Mais par ailleurs, c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, les procès permettent en même temps de mener, de faire quelque chose tout autour qui, peut-être, on y arrivera, dépersonnalise en fait le procès lui-même, c'est-à-dire que ce soit plus Madame X contre Monsieur Y, mais que ce soit vraiment il y a viol et puis qu'est-ce qu'on en fait. Bon, puis l'autre problème, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, en fait, la résolution proposée par la justice qui se solde par des années de prison, en fait, ça nous va pas non plus. On n'y croit pas à la prison, pour nous c'est pas une solution, c'est une solution dans aucun cas qui existe, et puis on sait bien que la prison est en fait un repère de truands, violeurs et tout ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'il y a une contradiction énorme là-dedans. Quand on dépose plainte, on est forcément affronté à cette histoire et il y a une contradiction très forte. Mais pour l'instant, je crois qu'on est obligé d'admettre que le dépôt de plainte est en fait une première démarche, peut-être aussi la démarche la plus accessible à tout le monde, pour en fait sortir du silence et puis dire bon, ben, ce qui m'est arrivé. C'est un truc qui peut arriver à tout le monde, et puis je l'affirme comme tel.
Par rapport à la prison, bon, y a une femme qui a été violée et qui m'a raconté que le jour, parce que bon, elle avait été violée avec des menaces de mort, et le jour où son violeur a été enfermé, effectivement, pour elle, ça a été un soulagement aussi. Donc ça, c'est aussi un aspect de la prison qu'il faut peut-être pas négliger. Bien sûr que, bon, la prison, on sait bien que c'est pas une solution. Enfin, pour une femme, de savoir peut-être que son violeur est sous les verrous, ça peut être un soulagement.
Ça peut aussi être un problème. Ça peut lui poser un double problème aussi. C'est une femme qui ne croit absolument pas à la prison, qui déteste la prison, qui pense que ça résout rien du tout, sinon que ça enlève de la circulation un violeur. Mais la société, elle est pleine de violeurs, un de plus, un de moins. Mais c'est vrai que je respecte tout à fait une femme qui a peur que son violeur récidive ou qui récidive sur d'autres femmes. C'est vrai qu'il y a un problème là autour.
Ce qui est fou aussi, bon, moi j'ai assisté à quelques procès pour viol, c'est qu'effectivement le viol est à la limite n'est pas dans le procès. Il y a tout autre chose dans le procès que le viol. Un procès pour viol, en fait, tout est là sauf le viol. Et ce qui est ce que la justice tend à faire, c'est elle tend à individualiser le violeur comme un monstre, à le sortir de l'ordinaire, à sortir le fait que c'est quelqu'un que la plupart du temps le viol, c'est de fait quand même une des bases du patriarcat. Je veux dire, la violence faite sur les femmes, c'est comme ça quand même que marche l'oppression sur les femmes. Et la justice sort de ça, elle sort le côté monstrueux du violeur. Disons, moi, j'ai assisté au dernier procès qu'il y a eu à Genève, qui était donc cette femme qui a été violée par un homme pendant que la copine de l'homme donc accouchait. Et alors cet homme, la seule chose qui sortait, c'est qu'il était arabe, c'est qu'il était voleur, c'est qu'il n'aimait pas travailler, etc. Le fait qu'il avait violé, ça passait sous silence. Et de même, ce que je trouve fou dans un procès, et je trouve que inadmissible, et sur lequel il faudrait faire quelque chose, c'est la défense, l'attitude de la défense. Parce que bon, c'est évident que le violeur, il a le droit d'être défendu comme tout le monde, je veux dire, c'est effectivement pas un monstre, donc il a les droits de n'importe quel accusé, mais c'est inadmissible que la défense, pour défendre le violeur, accuse la femme, et c'est toujours comme ça. Elle portait pas de culotte, elle provoquait. Bon, quand tu dis avant, le violeur nie le viol, il nie le viol comme violence, mais souvent il reconnaît l'acte sexuel. Il dit oui, j'ai fait l'amour, mais elle était consentante. Alors il y a aussi une confusion totale chez beaucoup d'hommes sur faire l'amour et viol, quoi, qui est assez étonnante. Je n'arrive pas très bien à comprendre comment ils peuvent mélanger ces deux choses. comme ils peuvent croire qu'un viol, c'est la même chose que faire l'amour. Alors pour moi, il y a aussi, quand on parle de procès, disons les procès, je pense que beaucoup de nous pourront dire la même chose, les procès tels qu'ils se passent maintenant, c'est assez affreux. Il n'y a personne qui est contente. Peut-être que finalement la victime, au moment où son violeur se fait condamner, peut-être qu'elle est soulagée un petit peu, parce que déjà qu'elle a mené toute cette bataille, au moins elle en a quand même retiré quelque chose. Mais la plupart du temps, on en sort terriblement frustrée, parce que le véritable problème, il a été évacué du procès. Et je pense qu'un des rôles, peut-être que pourrait avoir un comité comme le vôtre, ce serait aussi de se battre pour que les procès soient autre chose que ce qu'ils sont.
Dans les trucs que tu disais, de ce que t'attends un peu du procès, ces machins-là, c'est vrai que là-dessus, bon, il y a tous ces problèmes où le problème n'est pas traité, etc. Et puis bon, il y a l'histoire de que ce soit reconnu comme viol, en fait, ça veut dire quoi ? Parce que qu'on reconnaisse que ce soit un viol dans la merde où ça se passe, etc., c'est pas très satisfaisant, quoi. En fait, bon, pour moi, ce serait plutôt le truc... d'arriver à obtenir un certain nombre de dommages et intérêts, et que le mec soit suffisamment emmerdé aussi pour pas avoir envie de recommencer, en tout cas. Et puis, bon, en dehors du fait que ça porte un débat public aussi là-dessus, un certain nombre d'informations et tout, c'est vrai qu'à ce niveau-là, du point de vue de la justice, le fait que le mec soit emmerdé, c'est, bon, on disait limité, quoi, mais... enfin, bon, voilà, quoi. Mais c'est vrai que sur l'issue... que ce soit reconnu, c'est essayer d'obtenir un certain nombre de trucs qu'on arrive à imposer, qu'il n'y ait plus telle question qui soit posée, que, etc. Pendant le déroulement du procès, puis sur l'aboutissement, moi je vois un truc, en tout cas de dommages et intérêts, où moi j'aimerais bien m'y retrouver là-dessus, quoi. Bon, je sais pas.
Une des choses aussi du procès, c'est peut-être que... ça va décourager les hommes de violer, parce qu'effectivement, tant qu'on fait rien, tant qu'on ni on porte plainte ni on se défend, les hommes peuvent continuer à violer impunément. Ils n'ont pas peur de nous. Peut-être qu'effectivement, commencer à porter plainte, les hommes réfléchiront un peu, ils commenceront à avoir peur, comme ils ont peur d'autres choses, ils ont peur des flics, ils ont peur de leur patron. Enfin, ils vont pas tuer, ils vont pas tabasser. Cette soi-disant violence qu'ils ont en eux, ils arrivent très bien à la contrôler dans certaines situations, quand justement ils ont peur. Et puis avec les femmes, ils ont pas peur, donc ils y vont allègrement.
C'est pas la punition éventuelle du style peine de prison qu'ils pourraient subir qui va leur faire peur. Je crois que là, il y a une question de pouvoir. Quand tu dis il a peur de taper sur le patron, c'est pas uniquement par peur de faire des mois de tôle. C'est vraiment aussi la représentation d'un certain pouvoir. Et que je crois là, on touche quelque chose de beaucoup plus profond, de plus fondamental dans l'attitude des hommes et des femmes sur ne pas continuer dans l'éducation, dans l'ensemble de la vie sociale, à perpétuer cette image de la femme comme quelqu'un de plus faible, etc. C'est un aspect qui est important et puis qui est beaucoup plus à long terme, qui est un travail, un thème de réflexion qu'on s'est donné, mais qui est beaucoup plus long, quoi, beaucoup plus en profondeur. Quand on parle de changer les rapports homme-femme, c'est vrai que c'est ça que ça touche, quoi. Parce que c'est pas, moi je crois absolument pas que c'est la prison qui va dissuader des violeurs. Je ne crois absolument pas ça.
C'est pour ça qu'il faut trouver d'autres moyens de riposte aussi, pas seulement ça.
Aussi,
on en parlera après.
C'est ça, puis aussi au cours d'un procès, dénoncer tous les autres aspects qui amènent les hommes à devenir des violeurs. Ou à être.
À commencer précisément par la justice, enfin bon, l'endroit où on se trouve. C'est vrai que quand, lors d'un procès, on se trouve dans une cour d'assises, on peut déjà commencer par dénoncer l'attitude qu'il y a à l'intérieur d'une telle communauté, en fait. C'est vrai que c'est le cercle vicieux, en fait. On enferme d'une manière ou d'une autre ceux qui dépassent les limites. Et puis, la limite, on ne sait jamais où elle se trouve. On ne sait jamais qu'est-ce qui est considéré comme un acte répréhensible, qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce domaine. Hein. Dans les autres domaines, ils le savent très bien, les limites, ils les ont bien mises. Mais dans ce domaine-là, en fait, comme par hasard, Il n'y a pas de limite. Ça devient, à un moment donné, ça devient intolérable parce que ça crée des rapports de violence qui, si se généralisaient, seraient insupportables. C'est vrai que, bon, par exemple, l'histoire de la guerre des sexes, même si de fait elle existe étouffée, j'entends, elle existe comme ça, et c'est vrai qu'elle n'est pas déclarée officiellement. Et si elle devait exister officiellement, ça deviendrait intolérable. Alors, dans le cadre d'un procès, bon, on peut dénoncer un certain nombre de choses, mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas non plus aborder la problématique, en fait, procès, simplement en disant, bon, on utilise les procès comme tribune. Je crois qu'il faut qu'on soit appelé là-dessus. Moi, j'admets tout à fait qu'on n'est pas au clair. C'est vrai qu'on n'est pas au clair. Il faut qu'on arrive à dire, bon, c'est à la fois une tribune, mais en même temps, quand une femme s'embrigade dans une affaire de procès, en fait, il faut arriver à une certaine conclusion. Puis sur cette conclusion, c'est vrai qu'on ne sait pas. Je crois qu'on n'est pas au clair là-dessus. Mais bon, je trouve qu'il n'y a pas à avoir de scrupules, et puis il n'y a pas à avoir de honte parce qu'on n'est pas au clair. J'entends, c'est la situation actuelle. Et c'est vrai, il faut envisager.